ラジオオカピ
オカピオカピ service ta team en poukou
オカピ。
Bonjour et bienvenue dans Capi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de l'épilepsie? Nous en parlons avec le professeur Kaputu Kalala Malou. Il est président de la Ligue congolaise contre l'épilepsie, LICOS en sigle. Professeur, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous de Capi Service.
Ah, bonjour monsieur. J'en profite pour saluer aussi les auditeurs de la radio Capi.
Merci beaucoup de votre disponibilité. Restez en ligne. Chers auditeurs, auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, témoignages, questions et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Ocapi Service. Nous entendons également vos suggestions, témoignages dans les courriels dénommés service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Debs Vita réalise et assure la prise de son de ces rendez-vous. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Ocapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Ocapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Ocapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous entamons la première partie de ces numéros par un sujet du domaine de la santé publique. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de l'épilepsie? C'est de ce thème que nous abordons dans cette première partie du magazine Ocapi Service. En RDC, l'épilepsie est souvent entourée des stigmatisations et des malentendus, ce qui peut dissuader les patients de chercher de l'aide médicale. L'accès aux médicaments anti-épileptiques est limité et leur coût peut être prohibitif pour une grande partie de la population. Un autre constat, de nombreuses régions de la République démocratique du Congo manquent d'infrastructures médicales adéquates et des professionnels de santé formés pour diagnostiquer et assurer la prise en charge médicale de l'épilepsie. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de l'épilepsie? Nous en parlons avec le professeur Kaputu Kalala Malou. Nous rappelons qu'il est le président de la Ligue congolaise des luttes contre l'épilepsie. Professeur, que devons-nous attendre par les concepts épilepsie?
Merci encore une fois. Bon, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique. Cette maladie neurologique chronique, quand on dit neurologique, on voit que ça intéresse le système nerveux. Mm. Elle est caractérisée par le fait que les malades présentent une répétition de crise d'épilepsie. Alors, maintenant, cela signifie qu'il y a une différence entre déjà l'épilepsie et les crises d'épilepsie, parce que ce sont des crises d'épilepsie qui font que le malade soit appelé épileptique. Alors, les crises d'épilepsie, ce sont des signes que un observateur externe voit sur le corps d'un patient. Alors, ces signes, je voudrais être plus simple et pour éviter au maximum le terme trop technique. Alors, ces signes peuvent être une perte de connaissance suivie d'une chute et des mouvements involontaires intéressant tous les quatre membres, c'est-à-dire le membre supérieur et le membre inférieur, pendant un temps. Et ces membres, ça peut être une partie du corps qui bouge ou tous les corps. Parfois, on voit que le malade, il y a une révulsion oculaire, les yeux semblent être dirigés vers le plafond, et le malade bouge, et après un certain moment, il se calme, et on se rend compte qu'il s'est oublié, il y a eu un relâchement sphinctérien, il a fait pipi sur lui, peut-être il a fait aussi la selle sur lui. Et puis il revient à lui, un peu étourdi, un peu dans les pommes. Et puis ça peut se répéter. Alors il se peut d'ailleurs que ça ne soit pas ça. Il se peut que ça soit tout simplement une partie du corps qui bouge, le malade restant complètement conscient. Et voilà. Et souvent ces genres de choses ne sont pas reconnues comme épileptiques. Il se peut aussi que souvent ce sont des enfants. Il reste là pendant qu'il parlait ou qu'il faisait quelque chose d'autre. Vous avez l'impression qu'il s'est coupé de l'entourage, comme s'il rêvait. Au bout de quelques secondes, il revient à lui. Donc, bref, ces crises-là, quand ça se répète, bon, disons, pour être plus simple, ça s'appelle épilepsie. Et cette épilepsie, je ne sais pas si c'est déjà la question qui est posée, provient du fait qu'il y a un dysfonctionnement dans notre système nerveux. Donc, un dysfonctionnement, oui, un dysfonctionnement transitoire et qui fait que le cerveau, c'est un organe qui s'occupe du fonctionnement de notre corps pour ce qui est du mouvement, pour ce qui est de la sensibilité, de sensations. Et aussi de notre pensée. Donc, lorsque c'est le cerveau qui est, disons, le substratum de ces fonctions et ne fonctionne pas, eh bien, il y a une perturbation d'une ou de plusieurs de ces fonctions. C'est ainsi qu'on voit qu'il y a peut-être une perte de connaissance parce que c'est le cerveau qui nous maintient en état de veille. Il y a des mouvements involontaires parce que c'est le cerveau qui nous fait bouger. Donc, c'est ça l'épilepsie. En quelque sorte, en bref,
Quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui occasionnent les facteurs de risque au fait de l'épilepsie, professeur?
Donc, j'aimerais peut-être répondre à la question, quelles sont les étiologies de l'épilepsie? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Alors, il y a plusieurs discussions autour de ça, mais actuellement, on est autour des étiologies suivantes. Le premier groupe est appelé structurel. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le cerveau un dommage, une lésion liée peut-être à un traumatisme. Le malade est tombé de la moto, tête première. Le malade a eu, par exemple,
un accident.
D'abord, le traumatisme. Bien sûr, un accident. L'enfant a eu des problèmes à la naissance. À la naissance. Vous êtes là?
Oui.
J'ai eu un appel qui pouvait m'embrouiller. Alors, à la naissance. D'aller à la maternité, il n'a pas eu une bonne respiration, le cerveau n'a pas reçu suffisamment de sang, ou pendant la vie intra-utérine, la maman a eu peut-être un comportement anormal, ou soit elle est tombée, ou elle a eu des infections qui elles-mêmes ont attaqué le bébé. Alors, tout ça, ça peut causer des dégâts dans le cerveau susceptibles d'être responsables des crises d'épilepsie et de l'épilepsie. Alors, il y a aussi un autre groupe qu'on appelle génétique. Oui, il y a des épilepsies génétiques, c'est-à-dire que qui se transmettent de manière héréditaire. Et puis il y a un autre groupe qu'on appelle les épilepsies infectieuses. Oui, vous avez fait une méningite, une encéphalite, et il y a de causes. Peut-être vous mangez la viande de porc insuffisamment cuite et vous attrapez le ténia. Et à ce moment-là, ça s'appelle la neurocystercose. Ça peut aussi que ça soit les causes métaboliques. C'est-à-dire, vous êtes hypertendu, vous avez un diabète qui compromet la circulation du sang dans le cerveau et ça laisse des lésions. Et il y a aussi des causes qu'on appelle humines. C'est-à-dire, le corps peut parfois, on dirait, se retourner contre lui-même et commencer à se détruire.
Détruire les cellules nerveuses.
L'organe attaqué. Bien sûr, ça attaque les cellules nerveuses, ou carrément, il arrive que on cherche les causes, on ne sait pas, on dit que les causes sont c'est le groupe de inconnus. Alors à ce moment-là, souvent on pense à la maturation du cerveau, le cerveau qui est en maturation, il arrive que qu'il y ait des épilepsies liées au fait que le cerveau est encore immature. Donc à moindre problème, il peut y avoir une sorte de court-circuit. En quelque sorte, pour simplifier un peu le chose, et ça donne l'épilepsie. Donc, c'est à peu près autour de ces causes-là, on discute, on voit les étiologies.
Professeur, est-ce que la prise de l'âge peut également être considérée comme facteur de risque? Parce que pour certaines maladies, par exemple de la Parkinson, certaines personnes entrent en transe. On peut aussi mettre dans les paniers facteur âge parmi les causes?
Oui, nous disons que l'âge, ce n'est pas la cause, ça serait le facteur. Parce que vous prenez de l'âge, vous êtes exposé à certaines pathologies susceptibles de causer des dégâts, de lésions dans le cerveau. Par exemple, avec l'âge, vous pouvez présenter l'accident vasculaire cérébral.
Tout à fait.
Alors, parmi les séquelles des AVC, on peut effectivement trouver l'épilepsie. C'est dans ce cadre que l'âge peut, et d'ailleurs... on a plus de personnes épileptiques avant l'âge de 10 ans. Dans nos pays, 60 à 70% des épilepsies commencent avant l'âge de 10 ans pour des raisons liées bien sûr à la grossesse, aux problèmes autour de l'accouchement, des infections qui attaquent les cerveaux immatures, et aussi pour des gens qui ont l'espérance de vie un peu longue, et puis à partir de 60 ans, 70 ans, on assiste aussi à l'augmentation du nombre d'épileptiques, bien sûr dû aux causes comme des AVC, de tumeurs cérébrales qui apparaissent à ce moment-là. Ça peut être à la base de... Ce n'est pas la cause, mais plutôt un facteur qui peut être, susceptible de donner libre cours à certaines affections qui peuvent susceptibles de faire convulser le malade.
Est-ce que la consommation abusive de l'alcool ou des drogues dures peuvent également être alignée parmi les facteurs de risque?
Je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur l'alcool. L'alcool peut donner des crises d'épilepsie de deux manières. D'abord, l'alcool, ça s'appelle l'ivresse convulsivante. Le malade qui est en ivresse aiguë, il peut effectivement présenter des crises d'épilepsie. Et autre chose, un malade qui est déjà dépendant, un alcoolique dépendant à l'alcool, c'est-à-dire qui ne peut plus se passer de l'alcool, quand il peut lui arriver qu'il ne les prenne pas pour une raison ou une autre, peut-être qu'il n'a pas d'argent, ou il est hospitalisé, il ne sait pas prendre son alcool, il y a ce qu'on appelle le syndrome des manques. Dans un terme un peu trivial, c'est le syndrome de sévrage. Et dans parmi le signe du syndrome de sévrage, on peut assister à des crises d'épilepsie. Donc, l'alcool donne le crise d'épileptique de ces deux façons-là.
Merci beaucoup, professeur. On vous garde en ligne. Dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, nous allons partir au standard pour donner la parole aux premiers intervenants qui appellent à travers la République. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de l'épilepsie? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si ce sujet vous intéresse, N'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, chers auditeurs, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur, il nous appelle depuis la ville de Kisangani, il s'appelle Saïdi. Monsieur Saïdi, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour cher Tati, bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Kapi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Voilà, cher Tati, oui, l'épilepsie telle que l'invité avait parlé, c'est une maladie neurologique fréquente, mais encore trop mal comprise, surtout dans les contextes où règne la traumatisation et la désinformation. Cher Tati, à ce qui concerne la prévention, notamment par les soins prénatales, la protection contre les infections cérébrales et la réduction des traumatismes, reste également un pilier clé en renforçant la formation du personnel de santé et en rendant le traitement accessible
à tous les patients.
La RDCP significativement améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l'épilepsie. Je dois aller tout juste à quelques questions à l'invité. La première question, est-ce que cette maladie est contagieuse? La première question. La seconde question, comment sensibiliser la population pour réduire la stigmatisation et favoriser une prise en charge précoce? Et l'autre question, quel rôle peuvent jouer les écoles dans l'intégration et la protection des enfants épileptiques? Et pour citer, cher Tati, l'importance de la thématique, quel mythe ou croyance erronée entoure encore l'épilepsie dans certaines communautés? Voici quelques questions que l'invité peut quand même éclairer l'opinion, cher Tati. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Blaise Saïdi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Tes quatre questions sont notées. L'invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Excellente journée. Cette fois-ci, on part à Lubumbashi pour donner la parole à Monsieur Mumpoi. Bonjour, Monsieur Ismaël, et bienvenue dans ces rendez-vous.
Merci beaucoup, Kati. Merci, bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Kati.
Nous vous écoutons.
Je suis l'invité. Comme je portais sur la taille, je pense que cette maladie étant inconnue, la cause profonde de cette maladie n'est pas connue. Il se faisait qu'on pouvait prendre cette maladie comme des maladies à prendre en charge par les organismes. Étant une maladie négligée, comme les causes sont plus non pas connues, on pouvait faire quelque chose. Parce que ces gens-ci sont plus exposés au risque. Demain, par exemple, comme l'épilepsie, ce sont des faux mouvements. Et en plus, pour l'épilepsie, c'est un mouvement qui s'effectue au niveau du cerveau. On pouvait savoir soit c'est l'asphyxie du cerveau, ou soit c'est l'accès de l'air qui passe au cerveau, qui fait en sorte à ce qu'il y ait un leucite précoce de malades ou d'une personne atteinte de l'épilepsie. Ces personnes ne pouvaient pas plus être en divagation à tout moment. La grande cause, parce que vous le trouverez au bord de la rivière, au niveau des arrêts de bus ou même dans le bus. Le seul grand problème, ces gens-ci pouvaient être bien encadrés. Ils devaient être bien encadrés, que ce soit en famille, ils devaient être bien encadrés pour vivre quand il y a une chute qui ne puisse pas tomber soit dans une eau chaude ou dans un feu pour vivre qui se brûle. Parce que leur identification n'est pas simple, vous allez trouver que ce sont des cicatrices, de graves cicatrices. Je pense qu'on pouvait faire quelque chose pour les encadrer. Je vous donne un témoignage. Là où je travaille, il y a un monsieur, Yannick. C'est un épileptique, mais je vous dis, il consomme l'alcool à un niveau où vous n'avez pas l'idée, où vous pouvez avoir pitié d'eux. Mais lui ne se rend pas compte que l'état où je suis ici, c'est pour cette raison que les psychologues pouvaient peut-être les encadrer, leur dire, comme la boisson trouble, l'alcool trouble, les drogues troubles, vous pouvez vous abstenir. Mais comment on fait le fait si ces gens-ci ne sont pas identifiés avoir même un organisme qui les prenne en charge pour leur dire, sinon vous risquez votre vie, vous avez quand même la chance de vivre.
Oui, mais monsieur Ismaël, il peut avoir quel âge? Monsieur Ismaël, il a quel âge? Il peut avoir quel âge, ce monsieur-là, qui est épileptique, qui boit beaucoup?
D'abord, pour votre information, Yannick est sourd-muet. Yannick est un sourd-muet, il a 27 ans, 27 à 26 ans. Je vous dis, le sourd-muet, ce qu'il fait, ça peut même vous étonner. À force qu'il prenne ça, l'alcool et le faux mouvement électron cérébral trouble plus l'état mental d'une personne. Mais si vous avez à cet état d'inconscience où vous tombez à toute fois sans le savoir et qu'on vous trouve encore à un état d'ivresse, c'est un peu grave.
Oui.
Ce que je demanderais pour une autre chose, c'est la stigmatisation. Ces gens-là, nous savons très bien que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, mais le grand problème, une stigmatisation, parce que ces gens-là, les gens ne supporteraient pas manger avec ces gens-là. Vous avez des plaies qui ne se cicatrisent pas, et des fois vous allez tomber encore sur une même plaie là, mais souvent ça se fait tout, ou c'est la question que je pouvais demander à l'invité. Mais pourquoi ça se fait seulement soit souvent à la fin du mois? Ces gens-là perdent beaucoup à la fin du mois. Mais d'autres là, il y a même au milieu du mois, pendant un certain moment, ils tombent. Mais certaines familles ont une conscience, c'est à la fin du mois où la ligne va sortir. Ils ont un système de gardiennage, ils sont toujours à côté de leurs malades. Mais eux, les systèmes sanitaires qui peuvent encadrer ces gens-ci pour les éviter quand même le danger. Ou la stigmatisation, pourquoi les gens ne doivent pas prendre conscience. Et aussi prise en charge de ces gens-là, quand les gens là tombent, il avait fallu à ceux qui aient aussi. Bon, chez nous, la Croix Rouge,
le geste
est
de secours.
Il faut prendre à un entourage les quatre gestes qui sont pour sauver aussi ces gens-là, leur donner la position, les transporter vers un milieu sanitaire. C'est ce qu'on pouvait même initier les gens qui de ces gens-là.
Merci beaucoup, monsieur Ismaël. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, professeur, nous partons à Bukavu pour donner la parole à Éminent Mwanda, à qui nous disons bonjour. Monsieur Éminent, est-ce que vous m'entendez? La liaison n'est pas bonne avec Bukavu. On va essayer de rappeler monsieur Éminent. Professeur, comment répondez-vous à notre auditeur de Kisangani, monsieur Saïdi?
Merci beaucoup. La première question de M. Saïdi était de savoir si l'épilepsie était une maladie contagieuse ou pas.
Oui.
Je réponds tout de suite que l'épilepsie ce n'est pas une maladie contagieuse. Alors, cette légende a une oreille tellement dure que je ne sais pas comment il faut des campagnes assez sérieuses de sensibilisation. Il y a un épileptologue français, Lennox Gastaut, qui disait qu'il n'y a pas une maladie qui ressemble à l'épilepsie, dans ceci que le préjugé sont plus graves que la maladie elle-même.
Oui, professeur, on dit parfois que lorsque les sujets entrent en crise et que ces salives vous entrez en contact avec ces salives, vous également vous serez contaminé. C'est faux.
Pure légende. Pure légende. Et non seulement c'est une légende, on va même à ce qu'il ne faut même pas. Toutes ces déjections, que ce soit la selle, que ce soit la salive, que ce soit quand vous les touchez, que ce soit quand vous touchez sa sueur, c'est faux et archi faux. Et malheureusement, ces légendes se transmettent de bouche à oreille et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce qu'on dit de l'épilepsie, souvent, est plus grave que l'épilepsie. Plus grave. Tout ce qui s'est dit de l'épilepsie. Même quand le malade qui convulse fait le gaz, il s'est dit même que même si vous humez, vous sentez ces gaz, l'odeur de ces gaz-là, et puis vous êtes contaminé. C'est archi faux. Donc, c'est la première question. Mais en répondant à cette question je reviens directement à la question du monsieur de Lubumbashi, qui dit lui-même que les malades épileptiques sont stigmatisés. Mais en même temps, lui-même est en train de dire que quand les épileptiques ont des plaies, ça ne cicatrise pas. Vous voyez le niveau de la stigmatisation. Donc lui-même est sûr qu'une plaie chez un épileptique ne cicatrise pas. Mais c'est faux. C'est faux. Donc, la première chose, et souvent, c'est ce qui fait que souvent, quand on a un malade épileptique dans la famille, la première personne qui est consultée, c'est le traduit praticien ou le sorcier de la maison. Parce que, ou les pasteurs. Et ce que je dis est d'autant plus grave que nous avons des enfants des pasteurs qui sont d'abord séquestrés dans les églises au lieu de les amener directement à l'hôpital pour une prise en charge adaptée. Oui. Donc, c'est un problème qui est au niveau, je m'excuse, un peu africain. Pour l'Africain, toute maladie a une explication surnaturelle. Et quand la maladie concerne généralement le système nerveux, eh bien, le fantasme est à son comble. Et à son comble. Donc, c'est cela. Et puis, la contagiosité, la prétendue contagiosité de l'épilepsie est abordée également par l'éditeur qui vous a appelé de Lubumbashi, qui vous dit qu'il confirme, il ne pose pas une question, hein, il confirme que les épileptiques convulsent à la fin du mois. Et lorsqu'il y a la
lune. Lors de l'apparition de la lune.
Mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des légendes, mon œil. Ce sont des légendes. Et ces légendes-là, on les retrouve dans partout.
D'où l'importance. D'où l'importance de la sensibilisation, comme l'a suggéré Patrick Saïdi de Kisangani, professeur.
Mais cette sensibilisation demande des moyens.
Des ressources, oui.
Demande des moyens. Ça demande des ressources. Ça ne demande pas des ressources, non seulement des ressources humaines, mais ça demande d'autres ressources. Le déplacement de ceux qui doivent mener ces campagnes de sensibilisation. On en est, pas plus tard qu'hier, on s'est adressé à la Ligue internationale contre l'épilepsie pour qu'ils nous aident un peu avec des moyens pour qu'on organise dans le cadre des activités de la Ligue congolaise contre l'épilepsie, qu'on organise ces séances de vulgarisation pour que ces malades. Nous sommes actuellement dans un processus qui cherche à sortir l'épilepsie de l'ombre. Ça doit sortir de l'ombre. Nous avons des résistances énormes en Afrique pour que l'épilepsie sorte de l'ombre.
Oui, parce que professeur Saïdi, il a aussi évoqué la dimension intégration scolaire de ces enfants qui sont parfois stigmatisés et cela en pâtit sur leur parcours scolaire.
Mais la première chose, c'est que les parents qui ont ces enfants le cachent à la maison. Ce qui font qu'à in fine, ces enfants vont sédimenter dans les couches sociales professionnelles basses. Parce qu'ils ont peur de les exposer. En plein Kinshasa, un enfant qui convulse à l'école, un directeur de l'école s'est adressé à nous. Il nous a dit, il n'est pas possible que je continue à garder cet enfant dans mon école qui est célèbre. Donc, le fait d'avoir un enfant qui a convulsé devant les autres, selon lui, ça enlèverait de la crédibilité à son école. Vous voyez? Vous voyez? Et puis, j'ai fait d'une pierre plusieurs coups. Il dit que les malades sont laissés en divagation. Pourquoi ils doivent être autour des rivières? Ils doivent prendre les bus. Mais le problème, c'est qu'un épileptique, c'est un individu normal. Dès que nous sommes sûrs que nous avons déjà maîtrisé. Il est déjà sous traitement et qu'il ne peut pas il ne convulse plus. L'épileptique peut mener la vie de manière
comme toute autre personne.
Normale. Et
il a aussi évoqué la dimension liée au mythe, le mythe qui entoure cette maladie. Professeur, il faut balayer les idées reçues autour de la maladie.
Mais ça doit se faire de manière continue. Parce que si vous jamais vous balayez ces mythes-là dans le cerveau de ceux qui ont plus de 15-18 ans, ceux qui sont en train de croître, croissent avec ça. La grand-mère est à côté pour leur rappeler que les épileptiques sont des sorciers. Voilà, c'est comme ça. Ça demande des moyens conséquents. Mmh. Des moyens conséquents de vulgarisation. Mmh. Et ça ne demande pas un personnel extraordinaire. Même le non-médecin, le non-infirmier peuvent faire ce travail-là de vulgarisation et ça demande des moyens. Et j'ai vu, et ça c'est important, un de vos auditeurs, je pense celui de Lubumbashi, a évoqué, il souhaite que l'État prenne en charge. Mais en fait, c'est ça le rôle de l'État.
Mmh.
On devrait, cette maladie chronique, comme l'hypertension, comme le diabète, ainsi de suite, devrait être couvert complètement par le fonds gouvernemental. Ça devrait être ça par les assureurs.
Et Ismaël, il a évoqué l'aspect professeur de il faut former la communauté sur le geste de secours en cas de crise. Lorsqu'une personne tombe, parfois la communauté, les gens ne savent pas comment encadrer les sujets jusqu'à ce que il va se remettre. Et ça, c'est aussi un problème sérieux au sein de nos communautés, professeur.
Bien sûr, parce que souvent des gestes qu'on pose ne sont pas des gestes appropriés.
Mmh.
Vous assistez à parfois le ceux qui assistent serrent fortement le malade. Parfois ils mettent des choses, c'est pas moi, dans sa bouche au motif, disons selon eux, ça empêche la morsure de la langue, ce qui est dangereux parce que quand quelqu'un convulse qu'il est inconscient, on peut l'étouffer avec ça. Mmh. Il y en a ceux qui lui versent de l'eau sur la tête, c'est pas indiqué. Ceux qui urinent sur sa tête, ça c'est fait, c'est pas indiqué. Ce qu'il faut faire, c'est laisser l'individu convulser. Disons, desserrer la ceinture s'il en a une, desserrer la cravate s'il en a une, éloigner tout objet qui peut le traumatiser, le laisser convulser. Ça ne dure pas.
Jusqu'à ce que ça va passer, la crise passera.
Voilà.
On va retourner au standard, professeur. Oui, professeur, on retourne au standard. Il y a d'autres auditeurs qui veulent prendre la parole, donc on vous garde en ligne. On vous garde en ligne, professeur, le temps de donner la parole à la deuxième vague des auditeurs. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de l'épilepsie? Chers auditeurs, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-99-41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Eminent Mwanda, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute.
L'épilepsie, actuellement, c'est une maladie très chronique pour certains. Hein? C'est une maladie qui apparaît comme une dysphagie au sein de nos communautés. Moi, qui vous parle de ma société épilepsie, je sais combien cela coûte dans nos familles. Mais avant de poser certaines questions, je pense qu'il y a certaines pratiques que les jeunes font, peut-être qui aident d'une manière ou d'une autre pour que la maladie soit un peu éradiquée. Parce qu'il y a même de médecins traditionnels qui se rapportent disant que non, si vous avez un épilepsie, il faut l'amener, s'il n'a pas encore, s'il n'a pas connu de brûlure, il faut être traité. Ce sont des pratiques qui, actuellement, anéantissent, soit qui, accentuent parfois la maladie en question. Mais selon le moyen, les causes d'abord des journalistes, j'ai au moins certaines causes que moi je sais présumer que ça peut être vrai pour que l'épilepsie attrape l'individu. Il y a d'abord des causes avant la naissance ou à la naissance. Il y a le traumatisme crânien, il y a l'accouchement difficile, infection prénatale.
Oui, l'invité, Eminent Mwanda, l'invité a déjà évoqué les causes, hein. Ne revenez plus là-dessus parce qu'il a déjà évoqué les causes, les temps s'égrènent vite. Vous avez des questions particulières à poser à l'invité?
Oui, il y en a des questions.
Allez-y.
La première question que je peux poser, c'est que j'ai bien suivi l'invité disant que quand l'individu tombe, le pilote tombe, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Mais si vous aviez trouvé, vous aviez été là quand l'individu tombe, le pilote en question, et si c'était la première fois, comment vous pouvez découvrir quel élément le pilote l'individu en train de développer? Comment on peut vraiment
détecter qu'il s'agit de l'épilepsie?
Oui, oui. Okay. Parce qu'il y a certaines personnes qui tombent avec soit que la famille, soit que l'ivresse. Mais comment on peut décider réellement que ça, c'est l'épilepsie? Ça, c'est ma première question, monsieur Kassi. Mm. La deuxième question est de savoir quels sont les moyens, les techniques d'urgence, plutôt les traitements d'urgence qu'on doit admettre à un épilepsie qui se trouve dans la phase embryonnaire, je peux dire, si on peut le dire, donc dans la première phase, mm. afin que l'individu ne puisse pas développer l'épilepsie à. Et causer des conséquences en vie humaine. Parce que je crois qu'au plus longtemps que l'individu est en train de développer l'épilepsie, il y a certaines facultés que l'individu est en train de perdre. Mm. Selon ce que je dis à ma descente. Et alors, pour que cela ne puisse pas, pour que le cas d'épilepsie ne puisse pas s'aggraver, qu'est-ce qu'on doit faire à l'individu qui souffre avec l'épilepsie, mm. afin que
pour éviter des crises, l'hygiène de vie à adopter. Merci beaucoup, monsieur Eminent. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu, que vous intervenez. Excellente journée. Cette fois-ci, nous partons à Bunia, à Kisangani plutôt, pour donner la parole à Thomas. Thomas, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Monsieur Tati, bonjour à l'invité. Et ainsi que la proposité de la radio au Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup. En tout cas, l'épilepsie, c'est vraiment. Ça fait rage ici, surtout à certaines des personnes ici, vous voyez, et c'est un trouble, c'est un trouble caractérisé. On voit à tout moment qu'il y a quelques pics de crise là à tout moment. Et face à ça, il faut qu'il y ait le suivi doit être mis en application pour sauver cette catégorie là de personnes. Mais moi, parce que la thématique parlait également de la prévention, monsieur Tati. À part ce que les autres intervenants y a parlé, moi j'ajouterais assez des moyens de prévention également. On parle également de la prévention des traumatismes crâniens, monsieur. Faut porter en tout cas des casques et des activités lors des activités, par exemple à risque comme le vélo, par exemple la course. Ces gens-là doivent être bien protégés. Pour faire face à ces problèmes, les moyens de la prévention des traumatismes crâniens sont très importants. Mais également, il faut qu'il y ait la surveillance des maladies chroniques, monsieur Tati. On doit gérer efficacement, en tout cas, les conditions médicales chroniques, monsieur Tati, telles que comme l'hypertension ou le diabète. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prévenir, en tout cas, des complications pouvant conduire à des crises épileptique, monsieur Tati.
Oui, mais monsieur Thomas, s'il vous plaît, monsieur Thomas, en dehors de ces suggestions, est-ce que vous avez des questions précises particulières à poser à l'invité? On va gagner le temps, s'il vous plaît.
Vous me suivez?
Nous vous recevons, j'ai dit ceci. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à l'invité, en dehors des suggestions que vous avez avancées? Malheureusement, la liaison.
Je suis là.
Je disais, est-ce que vous avez des questions précises, des questions particulières à l'intention de l'invité? On va gagner le temps, c'est grain vite. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Voilà, j'avais des préoccupations à poser à l'invité, monsieur Jody, quelles sont en tout cas les indications pour la chirurgie d'épilepsie? Ça, c'est la première question. Quelles sont en tout cas les indications pour la chirurgie d'épilepsie et quel est en tout cas le processus de décision? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment alors les médicaments, parce qu'on parle également des traitements, je ne sais pas, comment les médicaments anti-épileptiques fonctionnent-ils et quels sont leurs effets secondaires? En ce qui est des médicaments anti-épileptiques, je ne sais pas qu'est-ce que l'invité pourra nous donner quant à ça. Il y a également la troisième question, parce que mieux vaut prévenir que guérir, je ne sais pas quelles sont les mesures
préventives
prendre pour assurer en tout cas la sécurité des personnes épileptiques au quotidien, je ne sais pas, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les mesures que nous, peut-être les voisins ou l'entourage de la victime, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les personnes là, à terre de l'abîme. Mais là, épilepsie, pardon. Et la dernière question, la radio Capi fait sa part, je ne sais pas comment sensibiliser en tout cas la population sur l'épilepsie afin, en tout cas, de réduire également la stigmatisation associée à cette maladie. Je ne sais pas quels sont les mécanismes ou les stratégies que nous, population, on doit faire pour, en tout cas, réduire la stigmatisation, associée à cette maladie. C'est pour ça que j'avais la connexion de l'âne,
Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Professeur, avant de répondre à Éminent de Bukavu et à Thomas, est-ce que pouvez-vous nous faire une idée sur la situation épidémiologique de l'épilepsie ici en RDC?
Merci. Je reviendrai sur le Thomas de Kisangani parce qu'il y a ça craché, je n'ai pas bien suivi certaines de ces questions. Bon, alors, monsieur, nous avons un problème particulièrement au Congo et dans certains pays africains. Nous avons des difficultés pour pouvoir mener des études épidémiologiques dans la population pour avoir une prévalence vraie et une incidence de l'épilepsie dans nos populations. Ça demande des grands moyens. Alors, on peut toujours utiliser des méthodes statistiques un peu rigoureuses pour que de certaines études locales, on peut éventuellement essayer de les généraliser. Alors, il est connu que nous avons une prévalence autour de 1%. Si nous estimons que la RDC est autour de 105 millions d'habitants environ, tel qu'on estime actuellement, on peut estimer, sans peur de se tromper beaucoup, que nous pouvons avoir plus d'un million, autour de 1 500 000 personnes épileptiques. Oui. Alors maintenant, nous avons des études faites dans certaines provinces, en Ituri, autour de 4,6 sur 1000, ce sont des petites populations, 1389 cas. Bref, des études que nous avons, qui sont faites au centre neuropsychopathologique et qui ont été endossées par la Ligue congolaise contre l'épilepsie, estiment que nous avons, disons, pour le fait qu'il y ait des personnes qui consultent dans le service de neurologie, entre 5 et 10% des personnes sont épileptiques. Donc, dans le service de neurologie congolais, dans le département de neurologie, dans le service qui s'occupe de maladies du système nerveux, 100 personnes qui arrivent pour consulter, donc nous attendons de 5 à 10 qu'ils soient épileptiques.
Abordons
déjà,
maintenant.
C'est déjà énorme.
C'est très énorme, professeur. Abordons maintenant la dimension liée à la prise en charge médicale. Comment s'est fait la prise en charge médicale d'un sujet épileptique? Et Éminent Mwanda de Bukavu, il a voulu savoir quelle hygiène de vie adopter lorsque on est épileptique afin d'éviter des crises à répétition.
Ok, nous répondons ceci. Nous donnons la réponse à cette question, nous répondons de manière classique. Nous ne tenons pas compte du fait que le malade est capable ou non de se payer, de faire face à ce qui est exigé pour une prise en charge optimale. Dès que nous soupçonnons, nous pensons qu'il se peut que ce que le malade présente soit une épilepsie, d'abord nous posons des questions pour prouver que c'est une épilepsie. Donc nous cherchons, par exemple, l'histoire de perte de connaissance, le fait qu'il se soit mordu la langue, qu'il ait perdu les urines et qu'on soit pendant la crise. Ça sont des choses, et puis qu'il ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Alors ça c'est très important, qu'il ne se rappelle pas exactement. Donc en poste,
c'est l'entourage qui raconte. C'est l'entourage qui rapporte ce qui s'est passé.
C'est exact. À ce moment-là, nous pouvons être plus ou moins sûrs que nous avons affaire à une crise d'épilepsie, éventuellement à une épilepsie. Alors, à ce moment-là, nous examinons le malade pour rechercher sur son corps les stigmates, donc d'autres signes qu'il n'aurait pas vu, lui, de la probable cause de l'épilepsie. Parce que ce qui donne l'épilepsie peut effectivement laisser d'autres stigmates. Par exemple, un côté du corps qui ne fonctionne pas bien, un organe d'essence qui ne fonctionne pas bien. Là, c'est nous qui découvrons. Alors, L'autre étape, c'est que nous faisons un examen qu'on appelle électroencéphalogramme. Cet examen qu'on appelle électroencéphalogramme, c'est à peu près, cet examen est pour les cerveaux, c'est que électrocardiogramme est pour les cœurs.
Pour les cœurs, ouais.
Donc, nous plaçons des électrodes sur le scalp, sur le cuir chevelu, et nous enregistrons l'activité du cerveau, l'activité électrique du cerveau. Mmh. Et nous analysons cette activité-là, et nous faisons aussi d'autres examens, l'examen qu'on appelle la neuroimagerie. C'est-à-dire, nous faisons les scanners du cerveau et éventuellement l'imagerie par résonance magnétique du cerveau qui nous montre en détail si le cerveau n'a pas un dommage ou une lésion particulière. Et d'autres examens que nous passons, vous avez déjà compris que nous sommes en train de rechercher maintenant la cause. Mmh. Et puis, nous pouvons maintenant, en fonction de notre flair médical, de notre intuition médicale, nous pouvons demander de faire d'autres examens du sang pour voir, par exemple, s'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de troubles électrolytiques, s'il a autre chose, s'il a un trouble, une maladie métabolique. Donc, bref, on cherche à ce qu'on sache pourquoi le malade présente des crises d'épilepsie. Maintenant, quand nous voulons maintenant le prendre en charge, on ne va pas le prendre en charge comme ça, on le prend en charge en fonction de ce que nous découvrons. Mmh. Le premier objectif, c'est d'empêcher que le malade convulse de nouveau.
Oui. Donc, elle se fait au cas par cas.
Ah, bien sûr. Vous avez bien compris. Il n'y a pas un traitement pour tout le monde. Non, non, non. Nous devons d'abord faire en sorte qu'il ne convulse pas. Pour qu'il ne convulse pas, on s'attaque à la cause qu'on a sur laquelle on a mis la main. Voilà. Parce que la même cause produisant les mêmes effets, si vous ne traitez pas la cause, eh bien, l'épileptique restera épileptique. Mmh. Alors, comme je vous ai dit, il y a souvent des cas où nous voyons la cause, mais il n'y a pas moyen de l'extirper. Ou soit nous ne voyons pas clairement la cause, à ce moment-là, nous allons tout simplement recourir aux médicaments qu'on appelle les antiépileptiques. Les antiépileptiques, ça peut être considéré comme un extincteur qui pour éteindre le feu. Donc ces médicaments-là vont faire en sorte que le cerveau ne soit pas toujours ne présente pas des zones de déséquilibre qui peut ces zones-là qui peuvent donner l'épilepsie. Donc ce sont des médicaments antiépileptiques qui ont un coût. Et ça c'est aussi une autre paire de manches, ça a un coût. Et ça coûte cher pour la famille, et c'est ce que déjà l'auditeur de Boucan va mentionner. Ça a un coût. Alors, la prise en charge ne se limite pas à ces deux aspects. La prise en charge doit être aussi pédagogique et psychologique. Je vous ai dit, l'épileptique vit dans un environnement où règne mythes et légendes qui peuvent déjà le mettre dans un état de dépression et de découragement et de n'est pas le manque de recherche de soins appropriés. Mmh. Donc, il faut éduquer. Et l'éducation passe par qu'est-ce qu'il doit manger, c'est la question à laquelle je vais répondre, qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit éviter, pourquoi ne pas tenir compte des mythes, quand il convulse, que faire. Nous avons déjà dit qu'il ne faut rien faire, juste empêcher que quelque chose le blesse, desserrer la ceinture et la cravate en cas échéant. Donc c'est ça, cette éducation et cette prise en charge psychologique qui est un aspect très important. Parce que si le malade n'est pas convaincu de ce que nous disons, il ne respectera pas la prise des antiépileptiques, qui peuvent durer. Ça peut prendre des années, ces traitements. Donc c'est en gros, ce que nous faisons pour la prise en charge des malades épileptiques. Donc il faut rechercher la cause de cette épilepsie, la traiter pour espérer que le malade ne convulse plus. Et souvent le malade nous vient en retard.
Oui, et professeur, quelle est l'hygiène de vie à adopter lorsqu'on est épileptique?
Eh bien, le problème, c'est que l'hygiène de vie dépend du malade. Mmh. D'abord, ce que je dois dire, c'est que il n'y a rien à éviter. Et sur le terrain, si vous allez à côté de l'Est de la République, au Grand Nord, vous allez trouver qu'on demande aux patients de ne pas manger les avocats, de ne pas manger tout ce qui ressemble à un oiseau. Donc, le poulet, les oiseaux, les canards, parce que ça s'appelle maladie Yandeke. Donc, il ne faut pas manger les œufs. Tous ces interdits-là n'ont pas leur raison d'être, s'il vous plaît. Mmh. Je suis sur l'antenne et je dois souligner, à Bukavu, par exemple, on court à l'aéroport, on ramasse un morceau d'avion, des anciens avions-là, on le boue, on bouillit, on boue ça, et de l'eau, et on donne aux malades.
On fait boire aux malades.
Léguer l'avion, c'est extraordinaire. Alors, en un mot, il n'y a rien à interdire. Mmh. Si les crises ne sont pas encore maîtrisées, donc il faut éviter les dettes de sommeil, donc on doit dormir suffisamment, éviter l'alcool, ne pas avoir la dette du sommeil, je crois l'avoir dit. Mais en dehors de ça, le malade mange tout. Mmh. Mange tout. Alors, les autres choses qui ne sont pas bonnes pour le malade qui ne sont pas épileptiques ne sont pas bonnes. Faut pas, l'alcool n'est pas toujours une bonne chose. L'alcool, il ne faut pas prendre l'alcool. Ça, c'est pour tout le monde. Hein.
La pratique du sport est également recommandée.
Bien sûr, je ne vais pas citer, nous avons eu des grands joueurs de carrière internationale épileptique. Brésiliens. Personne ne les fait. Ils ont été au sommet de leur carrière, ils ont fait gagner des coupes du monde à leur nation, tout en étant épileptiques. Voilà, nous avons des autorités épileptiques. Eh bien, pourquoi il y a des malades, un malade qui a présenté la dernière crise il y a 10 ans, il y a 15 ans, puisque... Donc, ils vivent, ils font tout comme tout le monde. Mmh. Et c'est sur quoi j'insiste, c'est le temps qui est perdu avec les épileptiques dans les églises, chez les praticiens. Mmh. Ce temps nous est précieux. Il y a un de vos intervenants qui a remarqué que un des membres de sa famille, plus il convulsait, plus il semblait perdre sa tête. Exactement. Les crises qui se répètent tout le temps vont faire en sorte que les malades aient des problèmes de cognition. La cognition, des troubles de fonction cognitive, ce sont toutes ces capacités mentales qui nous aident à apprendre et à nous adapter.
Et quand c'est à répétition, donc, ça désagrège la cognition.
Bien sûr! Bien sûr. Donc, les familles nous font perdre un temps extrêmement précieux. Mmh. Et quand il nous arrive, nous sommes en train de gérer le dégât.
Alors, on est presque à la fin de ces rendez-vous, professeur. Le temps s'égrène vite. En guise de plaidoyer, quel message lancez-vous à l'intention des décideurs ainsi qu'à l'intention de la population congolaise concernant la prise en charge médicale des sujets épileptiques en RDC?
Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est le moment peut-être le plus important de cette émission. Le message d'abord est de sensibilisation. L'épilepsie n'est pas contagieuse. C'est une maladie neurologique. Donc, le deuxième message, c'est que j'encourage avec force la consultation médicale, parce que le diagnostic précoce, une bonne prise en charge et la prise des antiépileptiques disponibles assure meilleure chance de vivre normalement. Et un autre aspect, un autre message important que j'aimerais faire passer, c'est que, écoutez, quand le malade convulse, écoute, ça doit être faire partie de la formation, il faut protéger, éviter que le malade ne se blesse, voilà, mais rien mettre dans sa bouche. Rien mettre dans sa bouche. Et ça, c'est peut-être pour les autres. Il faut qu'on promeuve, il faut qu'il y ait la promotion de la décentralisation des soins. On ne peut pas suivre des malades épileptiques seulement au CNPP ou dans des centres spécialisés où les consultations coûtent cher. Il faut qu'il y ait une décentralisation. Et cela peut passer par la formation des agents de santé.
Et la subvention de tout ce qui est lié aux soins, aux médicaments, des sujets épileptiques.
Justement, cela, on devrait avoir ça.
Merci beaucoup, professeur. Oui. Merci beaucoup, professeur Kaputu Kalala Malou. On est à la fin de ces rendez-vous. Merci beaucoup. Nous rappelons que vous êtes le président de la Ligue congolaise des luttes contre l'épilepsie. Et avec vous, on a eu à parler de cette maladie. Espérons que c'est pas le dernier rendez-vous, hein, parce que le sujet a le goût d'inachevé. Nous allons y revenir prochainement. Excellente journée.
Je vous remercie et je salue tous les auditeurs.